Bonjour les Pies, bonjour à tous. Chaleureuse bienvenue pour notre temps de célébration ce matin. Nous sommes dispersés et pourtant nous sommes unis autour du Seigneur et autour de sa parole. Notre désir est de vous faire vivre un temps significatif, un temps d'encouragement dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est avec chacun et chacune d'entre nous et cela nous réjouit. Et je pensais, en ouverture de ce culte, lire ce texte qu'on trouve dans le psaume 68, où il nous est dit « Chantez à Dieu, célébrez-le par vos chants, louez son nom, frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Il a pour nom l'Éternel, réjouissez-vous devant lui. Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte habitation. » Aux isolés, Dieu accorde une famille. C'est lui qui donne aux prisonniers la joie de la liberté. Aux isolés, il accorde une famille. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est la famille de la deuxième chance. Nous sommes unis autour du Maître pour le chanter, pour le célébrer et pour recevoir aussi une parole d'encouragement. Alors allons, avant de laisser la place à Sophie, avec son équipe qui nous conduira dans ce moment de louange, nous voulons prier et demander à Dieu de nous bénir. Nous te sommes reconnaissants pour cette nouvelle journée que nous voulons commencer avec toi, Seigneur. C'est ta journée, qu'elle soit pour chacun d'entre nous un sujet de joie. Dans une actualité encore bien chargée, tumultueuse, il nous est bon de marquer une pause, de venir vers toi, de venir à ta rencontre et de nous laisser impacter par ta parole, par ta présence et tout ce que tu as préparé pour nous dans le temps de ce culte. Merci Seigneur pour ta bonté et pour ton amour à notre égard à chacun et chacune. Amen.
Bonjour, nous sommes vraiment heureux d'être là ce matin et de louer le Seigneur avec vous. On vous invite réellement à un temps de louange. Nous n'avons pas encore la possibilité de nous retrouver en ce lieu, mais nous savons que le Seigneur est présent quand ses enfants le louent. Et je prie que là où vous êtes, derrière vos écrans, le Saint-Esprit vienne et vous touche. Les paroles de ces chants sont importantes, elles proclament la Seigneurie de Jésus. Il est Yeshua, Jésus, Dieu Sauveur, et c'est ce que je vous invite à chanter avec nous. L'Éternel est ma force, l'objet de mes louanges. Il est le Dieu de mon salut. Et je le célébrerai de jour en jour. Chantons le Sauveur du monde.
Il est roi, oui, il règne dans les cieux. Jésus, il est le Messie, il a ouvert pour nous le chemin du salut, il est le Sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions l'acclamant. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, Sauveur du monde.
Jamais ressuscité, tu es vivant Jésus et tu as mis ta vie en nous. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé. Car le Sauveur du monde était tombé, son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés.
À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais.
Shine.
donne aussi à chacun de nous qui croyons en lui une espérance vivante par sa résurrection. C'est ce que nous allons écouter maintenant, un texte de la parole de Dieu, donc la première épître de Pierre au chapitre 1, et c'est Simon qui va nous lire les versets 3 à 7.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Amen. Et nous voulons ensemble bénir le nom de Dieu. On le bénit non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. C'est ce que je vous invite à faire avec nous. Bénis Dieu, ô mon âme. N'oublie aucun de ses nombreux bienfaits.
Sans fin, béni Dieu, mon âme.
Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, cet Esprit qui fait de nous tes enfants et nous pouvons dire Abba, Papa, Dieu Père, et tu fais de nous des frères et des sœurs en Jésus. Merci parce que tu répands, ce Saint-Esprit répand ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Nous sommes passés par des périodes difficiles, Seigneur, mais dans ce temps que nous avons traversé, nous avons appris à retrouver l'essentiel, à mettre vraiment un ordre dans nos priorités, Seigneur, à chercher ta présence, à chercher ta face. Et merci parce que tu nous dis dans ta parole que quand nous cherchons ta face, eh bien, tu viens te révéler à nous. Merci pour ton amour, Jésus. Merci parce que ce temps nous a permis aussi de mieux réaliser l'état de nos cœurs, Seigneur, et de venir dans la repentance vers toi pour nous laisser transformer par toi. Nous voulons, Jésus, te laisser grandir en nous et diminuer afin que tu puisses grandir dans nos cœurs. Nous te louons pour ton amour et nous reconnaissons ta sainteté, ta majesté. Qui sommes-nous pour nous tenir devant toi, Seigneur? Mais nous sommes là par ta grâce, Seigneur.
Alléluia.
Chantons ensemble la gloire, la majesté du Seigneur. Couverts par le sang de l'agneau, nous pouvons nous approcher de lui. Et déverse en nous cet amour qui ne tarit jamais.
Me voici courbé sous ta majesté, couvert par la grâce d'en haut. Me voici reconnaissant mon péché, par le sang de l'agneau. J'ai trouvé l'amour qui ne tarit jamais, Dieu qui donne son Fils, le plus grand sacrifice. Chantons Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'étais rien, mais en toi j'ai la vie. Chantons Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis.
grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'étais rien, mais en toi j'ai la vie.
Continuons à rester dans la présence du Seigneur. Sa présence, c'est le ciel pour nous.
Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Mais ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère.
Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
Tu es ma vigueur, libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain.
Ta présence, c'est le ciel pour moi.
Chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Mais ici rien ne peut me satisfaire.
Non, rien ne peut.
Jésus, ton amour me désaltère. Oui, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
C'est le ciel pour moi. Et la présence de Dieu, c'est ce qui fait toute la différence dans une journée, mais aussi dans notre vie. Et la présence de Dieu n'est pas réservée seulement à quelques privilégiés, mais vous pouvez être dans la présence de Dieu. Vous pouvez accueillir Dieu dans votre vie. Vous pouvez le prier, lui demander d'être aussi votre Seigneur. Et il le fera. Il sera votre Seigneur, votre guide, votre gardien, votre Père céleste. Quelques annonces avant de laisser la place pour le message. D'abord, Un grand merci à Sophie et à toute l'équipe de Louanges de nous avoir entraînés ainsi dans ces merveilleux chants qui touchent nos vies, qui touchent nos cœurs. Merci aussi à l'équipe des techniciens. C'est à chaque fois un défi que nous relevons tous ensemble et nous sommes heureux lorsque toute la technique marche bien. Nous restons avec toute l'équipe pastorale à votre disposition, évidemment, au numéro qui s'affiche, auquel vous pouvez bien sûr nous contacter. Nous sommes joignables par téléphone, nous sommes joignables également par email. Si vous nous envoyez un message, un courriel, nous répondrons à votre message. Vous souhaitez peut-être revoir certains messages ou réécouter, vous souhaitez avoir quelques informations ou bien simplement vous souhaitez contribuer financièrement au fonctionnement de l'EPI, il n'y a pas de souci. Allez simplement sur le site de l'Église et vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Parlons juste quelques instants maintenant du retour dans nos locaux. La reprise des cultes n'est pas encore possible pour le moment, en tout cas pas avant le 12 juillet. Et je vais vous expliquer juste un petit peu pourquoi. Nous travaillons actuellement, très activement, avec nos équipes de bénévoles, des équipes de ménage, des équipes d'accueil, sur la mise en place des mesures sanitaires. Elle concerne l'arrivée sur le parking qui va être délimitée, les places vont être délimitées, l'arrivée dans le hall et dans la salle ici avec une entrée, une sortie. Nous ne pourrons pas être plus de 200 personnes pour respecter les règles des 4 mètres carrés par personne. Le port du masque sera obligatoire, du gel sera mis à votre disposition. Il faudra aussi s'inscrire en ligne sur Internet pour que nous puissions respecter le quota des 200 personnes autorisées. Et à chaque réunion, après chaque réunion, la salle et les sanitaires devront être soigneusement désinfectés. Et tout cela, vous le comprenez, ça prend du temps, ça prend de l'organisation, ça prendra aussi du personnel. Et donc, nous y travaillons activement. Sachez aussi que nous sommes pénalement responsable en cas de non-respect des consignes de sécurité. Et là, nous devons être absolument irréprochables pour offrir un témoignage exemplaire. C'est aujourd'hui la fête des mères et nous souhaitons une bonne fête à toutes les mamans, en particulier à Lise Rouffet et aussi félicitations à Pierre Samuel qui a contribué aussi à la venue du garçon, un petit garçon qui s'appelle Martin, qui pèse 2,890 kg, qui fait 48 cm. Donc félicitations aux parents et aux heureux grands-parents que nous saluons chaleureusement au passage. Alors la transition est toute trouvée puisque on va parler un peu de famille aujourd'hui. Et c'est Anne Burle, notre assistante pastorale, elle fait partie de notre équipe, on est tellement contents de la voir. Elle a quitté la région de Marseille pour venir ici sur Strasbourg. Il fait souvent gris, elle n'a pas beaucoup de soleil en ce moment, mais vous allez voir, c'est un rayon de soleil pour notre équipe, un rayon de soleil pour l'Église, on l'accueille chaleureusement. Merci Anne de venir nous apporter le message. Que Dieu vous bénisse.
Bonjour à tous, merci pour le rayon de soleil. Alors si ma maman t'entend, Michel va te dire non, c'est le mien. Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse d'être là ce matin avec vous. Alors je sais qu'on ne peut pas se voir là physiquement, mais je sais que vous êtes derrière vos écrans. Et des fois je me dis, j'aimerais bien être une petite mouche pour voir comment ça se passe chez vous. Donc vous savez comment ça se passe, mais moi je ne le sais pas. Alors Michel vous a annoncé le thème de mon message. Et il a fait l'unanimité à l'équipe pastorale, en fait, parce que j'avais deux sujets à cœur. Et donc, c'est celui-là qui a été voté, on va dire. Donc, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, dans ma lecture personnelle, je lis Luc 8. Et dans Luc 8, il est parlé de Jésus qui raconte la parabole des terrains et il fait aussi plusieurs miracles. Et puis, dans ces passages, il y a un verset qui me travaille. On va le lire, c'est dans Luc 8, versets 19 à 21. Il est marqué « La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit « ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais Jésus lui dit à tous, pardon, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et moi, je vous assure, ma première réaction, c'est dit « Punaise, Seigneur, je t'avoue que moi, si ma mère, elle arrive avec mon frère, ma sœur, mon père, mais je cours direct et je vais les voir. » Et puis là, au fond de mon cœur, il y a cet autre passage de Jean 19 au verset 26-27 qui résonne dans mon cœur où il est marqué « Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait ». C'était au moment où il était crucifié, Jésus. Et il dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Dès ce moment-là, le disciple a pris chez lui. Et je ne sais pas comment vous raisonnez au fond de vous et comment vous ressentez à l'écoute de ces versets ce qui est dit, mais j'ai l'impression que Jésus il change de famille. Et après avoir fini ce temps personnel avec Dieu, je reçois un message de ma sœur qui me parle d'une méditation qu'elle avait faite la veille sur la famille. La chance d'être née dans un foyer chrétien et que pourquoi ne pas faire profiter de cette richesse à d'autres enfants et d'être des familles chrétiennes d'accueil, des familles d'accueil chrétiennes. Et dans la même journée, je lis la pensée du jour qui a pour titre « Laissez-vous aimer » par Paul Calzada, c'est l'ancien responsable de l'action missionnaire. Et là, cette pensée, il parle de carence affective. Il parle aussi d'enfance abandonnée. Il parle aussi de « votre famille vous a oublié ». Il parle de ces sujets-là. Et il cite le verset que Michel a lu en introduction dans le chapitre 68 des Psaumes, le verset 7. « C'est lui qui donne une famille aux isolés ». Et là, le mot « famille » retentit en moi. Et je me suis dit « ok, je vais méditer sur ce que dit la parole de Dieu et puis le garder pour moi en fait ». Et je me suis dit « vu que je ne suis pas mère, je ne peux pas parler de famille ». Mais en même temps, j'ai une vision de la famille en tant que fille, en tant qu'enfant, en tant que petite sœur, mais en tant que grande sœur aussi. Et j'ai le privilège aussi de voir le côté famille en tant que tati. Alors, on va voir en premier temps ce que nous apprend ce passage. En première vue, d'un point de vue humain, quand on a lu donc Luc 8, 19, 21, qui écrit, encore je vous le relis, « La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais Jésus dit à tous, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Ce passage, il se retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu et de Marc. Et il est bon parfois de lire dans les différents évangiles, les versets qui racontent la même situation pour une meilleure compréhension, parce que tous n'ont pas le même regard. Et dans Matthieu et Marc, il est écrit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Moi, si ma sœur un jour, elle me dit qui est ma sœur, je crois que je lui sors le livret de famille et je lui rappelle qu'on est né du même père et de la mère, et la même mère. Et là, je me dis, mais comment vous imaginez si vous, en tant que mère, on vous dit « qui est ma mère ?» On va voir comment aurait pu réagir Marie de son côté. Le cri du cœur d'une maman qui se sent rejetée par son propre fils, c'est la chair de ma chair et il dit « qui est ma mère ?» Et là, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, mon frère, il s'était fiancé et pendant le fiançailles, bien sûr, il cherchait un appartement pour après le mariage, pour qu'il vive avec son épouse. Et donc, il a trouvé un appartement. Il était tout content, tout excité et tout ça. Et en une journée, en fait, il déménage sa chambre de 9 mètres carrés. Il la déménage et le soir, il se retrouve dans son appartement. Et dans son excitation, il n'a pas vu qu'il a été trop rapide quelque part pour maman, qui le matin voit la chambre de son fils pleine avec toutes ses affaires et tout ça, et puis le soir elle voit plus rien, vide, et plus son fils. Et je me rappelle que quand on est arrivé dans l'appart de mon frère, il me regarde, il dit « je suis allé un peu vite là ». Il n'avait pas fait attention à ce moment-là qu'il avait peiné ma maman. Et du coup, il est rentré, tel un gentleman, il a acheté un bouquet de fleurs, et il est rentré avec un bouquet de fleurs à la maison et un gros câlin à maman, et tout était bien passé. Mais imaginez, Marie, quand elle entend Jésus, son fils, lui dire « Mais qui est ma mère ?» Marie qui voit, elle, son fils débordé et qui veut le ramener à la maison pour qu'il se repose. qui peut être travaillée aussi par ce qu'elle entend de son fils, ce qui est dit de Jésus. Mon fils me renie, il ne m'aime plus. On peut imaginer que Marie pense cela. Du côté des disciples, de la foule ou même des frères de Jésus, les valeurs familiales avaient de l'importance à cette époque. Et j'espère qu'aujourd'hui, elles en ont encore. Et Jésus a pu paraître comme un mauvais fils, un mauvais frère. Il renie sa mère et ses frères. Mais pour qui se prend-il ? Pour qui se prend-il pour abandonner sa famille ? Et du côté de Jésus, Jésus, lui, il accomplit simplement les plans de Dieu, son Père. Tout simplement. Autant dans Matthieu que dans Luc, ce passage arrive soit en fin, soit au milieu du chapitre, sans avoir de lien direct avec les versets d'avant et ceux d'après. Mais par contre, on voit dans Marc quelques versets avant, au chapitre 3, au verset 21, il est écrit « Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les événements de Marc 3 se suivent les uns derrière les autres. Le chapitre commence par la guérison d'un homme le jour du sabbat, continue par la foule qui suit Jésus, ensuite le choix des 12 apôtres. Et là vient le moment où la famille de Jésus veut le ramener à la maison, ou j'ai envie de dire à la raison. Ça se poursuit par le conflit avec les chefs religieux et arrive le passage où Jésus dit que sa mère et ses frères sont des personnes qui obéissent à la volonté de Dieu. Concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est que Jésus étant beaucoup sollicité, le verset 20 du chapitre 3 de Marc nous le dit, Jésus et les disciples n'avaient pas le temps de manger, ils n'avaient pas le temps, par moment, pas le temps de se reposer non plus. Et quand on manque de repos et de nourriture, ça peut vite monter à la tête et on peut être complètement déséquilibré. Certains utilisent cette méthode pour faire parler ou pour que la personne adhère à sa position. Mais là, on parle de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Quand la famille de Jésus a entendu cela, ni une ni deux, pour éviter la mauvaise réputation, ou peut-être pour éviter de mettre en jeu l'honneur de la famille, il décide d'aller le chercher. De plus, il ne faut pas oublier que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. C'est écrit dans Jean 7, versets 3 et 5, ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. » Puisque tu fais ce genre de choses, montre-le au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. On peut, à première vue, comprendre la réaction de Jésus quand il dit que sa mère et ses frères sont ceux qui sont devant lui, ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. D'une part parce que sa famille l'interrompt alors qu'il s'occupe des affaires de son père, de Dieu en l'occurrence. Et d'autre part parce qu'il est vu comme quelqu'un qui a perdu la raison. Et je pense que certains d'entre vous ont peut-être vécu cette situation où votre famille vous dit que vous avez perdu la raison, que vous êtes une personne déraisonnable. Et j'ai trouvé une citation d'une personne qui dit « Si un homme consacre sa vie à une cause quelconque, tout ce qu'il y a de plus terrestre, on applaudit. Le musicien, l'athlète, l'homme d'affaires, l'artiste, le religieux traditionnel, ou le politicien, sont tous reconnus à leur juste valeur. En revanche, si quelqu'un consacre sa vie à Jésus-Christ, on le montre du doigt car l'on considère comme un fanatique. Il est vrai que dans le domaine spirituel, les détraqués ne manquent pas. C'est comme si le diable brouillait les pistes afin que les bonnes gens fassent l'amalgame et ne sortent pas des sentiers battus. Mais sincèrement, est-ce que Jésus manquerait de respect? Est-ce que c'était son but de renier sa famille ou de la négliger? Alors là, c'est une pensée toute humaine, j'ai envie de dire. Et maintenant, on va avoir une pensée plus céleste. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 15 jours, Philippe Châtre a prêché, il a apporté un message et à un moment il a parlé d'un passage que quand Jésus était ressuscité et qu'il marchait avec les disciples ne l'avaient pas reconnu. Parce que eux pensaient que Jésus était venu pour être le roi sur la terre. Alors que Jésus avait une toute autre vision. Et dans ce passage, en fait, c'est la même chose. Jésus a une vision plus large que nous-mêmes. Il y a une expression qui dit « on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez ». Et parfois, c'est vrai. On y découvre dans ce passage des éléments intéressants. Il y a la famille naturelle de Jésus, sa mère, Marie. C'est elle qui a enfanté Jésus. Ses frères, qui ont la même mère que Jésus. Alors à notre époque, il est vrai que nous dirons demi-frères ou demi-sœurs. Mais de leur temps, même s'ils n'avaient pas les deux mêmes parents, ils se considéraient comme frères et sœurs. Donc il y a la famille naturelle et il y a la famille spirituelle. Matthieu 12, 50 nous dit « En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Et dans le cœur d'une maman, d'un frère, j'ai envie d'un père ou d'une sœur, ces paroles peuvent être dures à entendre si on ne comprend pas la pensée de Dieu. Jésus sur la terre est venu faire la volonté de son Père, être le sauveur de l'humanité. Bien que Jésus soit né de manière humaine, mais en gardant sa divinité, il avait dans le cœur l'amour pour l'humanité entière. Il avait dans le cœur l'amour pour l'humanité entière. Et ce que Jésus montre, c'est que la famille de Dieu est grande et qu'elle n'exclut personne. La famille de Dieu est grande et elle n'exclut personne. Jésus prend soin de sa famille naturelle. Il ne la néglige pas, il ne l'oublie pas, il ne la met pas de côté, mais il prend soin aussi de la famille spirituelle. Il ne fait pas de favoritisme. On a une preuve. Regardez, quand Jésus agonise sur la croix, quand il vit ses derniers instants et qu'il voit sa mère souffrir de voir le châtiment qui est tombé sur son fils, Jésus lui dit « femme ». Je vais faire juste une petite parenthèse, le mot « femme » n'est pas du tout péjoratif, mais au contraire, ça met en valeur. Il dit « femme, voici ton fils ». Puis il dit aux disciples « voici ta mère ». Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Jésus, il était l'aîné de la famille. Et c'est lui, normalement, après la mort du père, de subvenir aux besoins de la famille. Alors, dans ses derniers instants de la vie, il prend encore soin de sa mère en la confiant en Jean. Il la confie sa maman à Jean. Et même à Jean, il lui dit « Tiens, voilà Marie, ma mère. Je te l'offre comme maman. » Et dans le commentaire de la Bible Vie Nouvelle, il est écrit « Dans notre monde informatisé et de plus en plus impersonnel, la chaleur des relations entre les membres de la famille de Dieu prend une importance grandissante. » La chaleur des relations entre les membres de la famille de Dieu prend une importance grandissante. L'Église devrait procurer les soins aimant à l'attention personnelle que beaucoup ne trouvent nulle part ailleurs. Et oui, comme il l'a dit Michel, nous voulons honorer les mamans parce que c'est vrai que sur le calendrier, c'est votre fête. À toutes les mamans, bonne fête. Et là où je voudrais en venir, c'est que Jésus nous offre une grande famille et donner de l'espoir à toutes les filles célibataires. Parce que je sais que parfois, on a envie d'enfanter, on a envie de connaître. Mais il y a une opportunité que Dieu nous offre, que Jésus nous offre, c'est d'être des mamans spirituelles. Et on va continuer dans ce deuxième point qui « Comment faire partie de cette famille de Dieu ?» Et alors, je ne sais pas comment ça se passe dans votre famille. Mais à plusieurs reprises, quand on a eu l'âge de fréquenter avec ma sœur, on avait les tontons ou les cousins qui nous disaient « Les filles, quand vous fréquentez quelqu'un, avant même d'aller trop loin, nous voulons les voir. » Et j'ai dit « Ok. » Oui, parce que on vous explique. On ne fait pas rentrer n'importe qui dans la famille. Et pour rentrer dans la famille, ça se mérite. Ok. Comme s'il fallait des épreuves pour voir si tu passes d'abord le grand-père, le père, les oncles, les frères, et puis si tu arrives à faire tout ça. Et là, dans le verset, il est écrit « Mais Jésus dit à tous, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Et si on se réfère seulement à ce passage, la conclusion serait que d'écouter, puisqu'il est dit « ceux qui écoutent la parole de Dieu ». Donc écouter, c'est différent d'entendre, parce qu'on peut entendre, mais ça passe. Comme on dit, ça passe par une oreille et ça ressort par l'autre. Mais écouter veut dire accueillir favorablement ce que nos oreilles entendent. Et c'est d'accepter et de cautionner ce qu'on l'on a entendu. Alors il dit, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Et là, de suite, on a envie de dire, alors qu'est-ce que je dois faire? Allez, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Il y a peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. On va sortir peut-être une liste. Et quand on entend le mot pratique, on veut de suite faire quelque chose pour arriver à un but, pour arriver à faire ce qu'on veut. Et pratiquer la parole de Dieu, la première des choses qui peut venir en tête, ça serait d'obéir aux commandements qui sont écrits. Et en hébreu, le mot « écouter », c'est aussi « obéir ». Et nous voilà en train de faire et de lire les commandements et de se dire où c'est que je pêche, où c'est que ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. John Gill, un théologien, a dit « ceci ne doit pas être compris comme étant une parfaite obéissance à la volonté de Dieu révélée dans sa juste loi, puisqu'une telle obéissance ne peut pas être accomplie par un simple homme. Ainsi, personne ne pourrait être dans une telle relation spirituelle avec Christ. Mais il s'agit de l'obéissance, de la foi à la volonté de Dieu révélée dans l'Évangile. Et celle-ci consiste à croire en Christ et avoir la vie éternelle. » Amen. Hébreux 11, 6 nous dit « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Dieu est le père de famille, de la famille spirituelle. Et c'est à lui que nous devons plaire. Et pour cela, il faut croire. Et la volonté de Dieu, c'est de croire. Oui, d'accord, mais croire en quoi? Jean 6, 40, il est écrit « La volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, aujourd'hui, es-tu prêt à croire, non pas à un conte de fées, mais à une réalité, celle qui est écrite dans la Bible? Celle qui te dit qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un Dieu qui t'aime, un Dieu qui veut t'accueillir dans sa famille, un Dieu qui a les bras ouverts pour que tu y ailles courir dedans, un Dieu qui a tout mis en place, mais vraiment tout, qui a tout accompli pour que tu puisses rentrer dans cette famille. Il te suffit d'une chose, celle de croire que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, pour faire à notre place ce qui nous était impossible de faire parfaitement, obéir à sa volonté. Ça nous était impossible. Dieu a accepté de se faire homme en Jésus, de vivre dans les conditions humaines pour aller jusqu'à se laisser crucifier à la croix, agonisant, par amour pour toi et par amour pour moi, pour te donner cette possibilité, la possibilité de faire partie de la famille et que tu aies la vie éternelle. Il te suffit juste de croire. Romains 10, 9 à 10, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et Galates 3, 24 nous dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous pouvez le dire à ceux qui sont autour de vous. Bien sûr, n'hésitez pas. et réalisez-vous comment Dieu, que il nous demande pas une liste de choses à faire avant de nous accueillir, avant de nous dire tu es mon enfant, avant de t'accepter comme enfant, comme son enfant. Il n'attend pas de nous que nous soyons parfaits avant de pouvoir être appelés enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. On n'a pas besoin d'être parfait. Et 1 Jean 3:1 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes, et nous le sommes, nous sommes enfants de Dieu, c'est vraiment juste magnifique. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Alors, ce matin j'ai une petite question quand même. Peux-tu faire partie de cette famille, de la famille de Dieu? Et en troisième point quand même, on dit qu'on ne choisit pas sa famille. Mais là quand même, je vais peut-être me permettre de présenter ce qu'est la famille de Dieu, ce que peut être la famille de Dieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir ce qu'est la famille de Dieu. Et pour ceux qui sont chrétiens et croyants, peut-être que ça va nous faire une remise en question et de nous dire peut-être qu'il y a des points où je ne suis pas trop un frère ou une sœur pour les croyants de l'Église. Et cette partie va peut-être permettre à ceux qui font les cours INSEE, c'est des cours bibliques que l'Église de l'Épi continue à donner en visioconférence, peut-être une petite révision pour vous. Parce qu'on l'a étudié dernièrement, la famille de Dieu est comparée dans la Bible à un corps, le corps du Christ. Et prenons un temps juste, j'ai envie de dire là, vous êtes à la maison, mais même si vous avez été ici, on l'aurait fait, de juste observer son corps. Je ne sais pas si des fois vous vous posez, moi je pose des fois, je suis à la maison sur mon canapé puis je me dis punaise, j'ai un bras, au bout du bras il y a une main avec des doigts. J'ai des pieds, il y a des jambes, tout est lié. Et je ne m'imagine pas à un moment, vous savez, quand on est fatigué, on dit j'ai envie de poser ma tête sur la table de nuit et puis que mon corps aille faire toutes les activités que je dois faire. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai envie de dire, posez votre main là sur le cœur. Est-ce que vous sentez les battements? C'est juste énorme. Alors, on ne va pas faire un cours d'anatomie, ne vous inquiétez pas. Mais je suis souvent, mais vraiment souvent fascinée par le corps. Ses fonctions, toutes ces cellules, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a dedans. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de notre corps. Et tout comme chaque membre, chaque organe, on a besoin d'être reliés les uns les autres. L'être humain a besoin d'être relié à des personnes. C'est une certitude, à avoir un lien et parfois avoir un groupe, à avoir une appartenance. Tout être humain cherche à appartenir à un groupe, avoir ce sentiment d'appartenance. Ce groupe, ça peut être la famille adoptive que Dieu nous offre. Et nous observons, quand nous lisons les Épîtres dans le Nouveau Testament, que la relation entre membres de la famille de Dieu est caractérisé par les uns les autres. Et Romains 12, 4, 5 nous dit en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et si nous arrivons à nous considérer comme formant ce corps, comme formant une même famille, donc un même corps, alors Romains 12, 10 nous dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Alors, Romains 15, 7 nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Alors, 1 Thessaloniciens 4, 18 nous dit « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Alors, si on fait partie du même corps, si on est la famille de Dieu, 1 Pierre 4:9 nous dit « Exercez l'hospitalité, les uns envers les autres, sans murmure. » Alors, Colossiens 3:13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et j'ai juste envie de dire que si Jésus nous pardonne, limite, on n'a pas le droit de ne pas pardonner quand même. Si le roi des rois, le maître de l'univers, le Dieu Tout-Puissant nous pardonne, alors nous aussi nous devons pardonner. Si nous voulons être ce corps, 1 Pierre 4:10 nous dit comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Dans la famille de Dieu, on peut exercer les dons que Dieu nous a donnés. Amen. Alors Galates 6:2 nous dit, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Voilà ce qui se passe dans la famille de Dieu, c'est de s'aimer les uns les autres, c'est de s'accepter les uns les autres, c'est de se réconforter les uns les autres, c'est aussi d'être hospitalier les uns les autres, de se pardonner, de s'accueillir les uns les autres, de se supporter les uns les autres et d'être serviteur les uns les autres. Et on pourrait simplement dire, Luc 3, 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. En fait, si tu as envie que quelqu'un te fasse du bien, alors à toi de faire du bien. Si tu as envie que quelqu'un te fasse un cadeau, alors va offrir un cadeau à quelqu'un. Si tu as envie, je ne sais pas, de faire une qu'on te fasse une surprise, alors va faire une surprise à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas toujours facile, hein ? Ce n'est pas toujours facile. Il n'est pas question de mettre la pression, mais avec l'aide de Dieu, de prendre soin des créatures si merveilleuses de Dieu que nous sommes. J'ai souvent dit, quand j'étais directrice de camp d'ados, avec les ados, vous savez, c'est une période assez transitoire de l'enfance à l'adulte. Et en chaque début de colo, on annonce les règles de vie. Et à un moment, je viens leur dire, comme tout adulte dirait, vous n'avez pas le droit de me manquer de respect. Mais à mon tour, je leur ai dit, je n'ai pas le droit de vous manquer de respect. Je voulais leur expliquer que c'était réciproque. Ils ne me manquent pas de respect, mais moi non plus. Ce n'est pas parce que je suis adulte, ce n'est pas parce que je suis plus âgée que eux que je dois faire ce que je veux avec eux. Et j'ai envie de dire que je n'ai pas le droit de maltraiter un être que Dieu a créé. Je n'ai pas le droit. Et si je me permets à un moment de faire le mal, alors je devrais avant me le faire à moi-même. Car il est écrit « Aime ton prochain comme toi-même ». Je ne sais pas si vous réalisez, mais si je me permets, déjà je me permets quelque chose qui ne m'est pas permis, de maltraiter une personne. Sommes-nous prêts à manifester, bien sûr, avec la grâce de Dieu tout cela ? Je devrais dire plutôt, est-ce que vous voulez ? Est-ce que nous voulons nous efforcer à le faire ? En premier, c'est vrai dans notre famille naturelle, mais aussi, ne pas oublier, dans la famille de Dieu. Ne pas oublier dans la famille de Dieu. Et on va conclure ce temps où je voudrais vous dire que rappelons-nous quand nous aurons l'occasion de lire ce passage de Luc 8, que Jésus, il n'a pas rejeté sa famille. Il ne lui a pas manqué de respect, il ne l'a pas négligé, loin de là. Mais il nous ouvre les yeux sur notre famille spirituelle et éternelle. Il nous ouvre les yeux sur notre famille spirituelle et éternelle. Et vous réalisez qu'en faisant partie de la famille de Dieu, eh bien, on va vivre ensemble pour l'éternité. Eh oui. Et ma coloc, elle me le dit souvent, quand il y a une personne qui l'a blessée ou quoi. Et je la trouve super parce qu'elle dit, mais ouais, mais elle m'a blessée, mais ok, il faut que je lui pardonne parce que tu t'imagines, on va vivre ensemble pour l'éternité. Alors autant vivre l'éternité, commencer à vivre l'éternité maintenant. Et c'est une bonne réflexion, oui, c'est vrai. Essayons de vivre l'éternité maintenant. C'est vrai, nous sommes imparfaits ici, mais avec la grâce de Dieu. Essayons de vivre l'éternité ensemble. Pourquoi ne pas manifester l'amour, l'unité de Dieu les uns envers les autres dès maintenant? La foi en Christ transcende toutes les différences et unit tous les croyants. Assurons-nous que nous n'instaurons pas des distinctions que le Seigneur, lui, a complètement abolies. Assurons-nous de tout ça. Et dans ce message, Dieu a un message d'espoir pour toi. À toi qui n'as peut-être pas de famille, je t'assure qu'on sera là pour être cette famille d'accueil, cette famille que tu n'as peut-être pas eue, cette famille qui manifeste l'amour de Jésus, la patience. Sache que dans la famille de Dieu, tu as ta place. Dans la famille de Dieu, tu as ta place. À toi qui, pour le moment, n'as pas d'enfant, je peux t'assurer que dans la famille de Dieu, tu peux trouver des enfants. J'ai eu le privilège d'être peut-être cette grande sœur, plus qu'une maman adoptive, mais cette grande sœur, une des jeunes qui a perdu son père et sa mère en l'espace de 4 mois, même pas. Je lui ai ouvert mes bras et elle s'est effondrée dans mes bras. Une autre jeune qui, quand elle me voit, elle me dit « Est-ce que je peux te faire un câlin ?» Elle est étudiante, elle fait partie d'un autre pays. Mais elle est étudiante à Strasbourg ici et elle veut cette affection maternelle qu'elle n'a plus. Mais oui, je suis là pour ouvrir les mains. Alors toi qui te dis « Mais oui, je veux des enfants », il y en a des enfants. Et vous savez, la relation entre enfants et parents, des fois, on a du mal à se confier à nos papas, à nos mamans. Mais tu peux être cette maman spirituelle qui peut guider cet enfant, qui peut l'accompagner. Et à vous, j'ai envie de dire, à vous, les couples chrétiens qui hésitez à adopter ou qui peut-être n'avez pas la possibilité d'avoir d'enfants, mais vous pouvez adopter. Et je vous encourage à le faire pour offrir la possibilité à un enfant ou plusieurs d'entendre parler de Dieu, d'entendre parler de ce que Dieu a fait pour nous. C'est vraiment un cadeau, un trésor d'avoir des enfants qui sont de notre propre sang ou pas. Mais Dieu nous offre une famille unie, une famille qui s'aime. Alors oui, certes, on a des progrès à faire, j'en suis bien consciente. Moi, la première, à considérer mon prochain comme moi-même, à l'aimer, à lui ouvrir les bras, à être là même des fois quand j'ai pas envie. Mais Dieu, ce qu'il a fait sur terre, c'est nous ouvrir cette famille. Alors vraiment que Dieu nous aide et nous guide à être cette famille que Dieu veut. Amen.
Qu'il en soit ainsi,
un jardin de paix pour ta famille.
Qu'il en soit ainsi,
et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté.
Si le vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté.
Soit ainsi,
un amour sincère au fond des yeux.
Qu'il en soit ainsi,
nous ne sommes pas capables. Donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables selon tes desseins parfaits.
Et nous serons. Et nous serons enfin l'épouse.
tu as voulu ton
trône établi, qu'il en soit ainsi, et ton règne sur tout le pays,
qu'il en soit ainsi.
Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ.
Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce.
Vraiment être cette famille en toi, ce corps dans l'unité, Jésus.
Merci beaucoup pour le message, Anne. Merci beaucoup à Sophie pour la louange. La famille de Dieu, c'est quand on est loin de la famille qu'on réalise combien on y est attaché. Alors, merci pour ce message d'espoir et d'encouragement qui nous a été partagé ce matin. On espère vraiment de tout cœur. Se retrouver, pouvoir se retrouver très très bientôt. En attendant, nous restons joignables, nous restons disponibles. Vous avez besoin de contact, vous avez besoin d'être encouragé. Nous sommes là à votre service et nous faisons tout notre possible pour répondre aux besoins des uns et des autres. Avant de nous séparer, je propose simplement qu'on s'incline dans la prière et qu'on demande à Dieu de nous accompagner. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de culte, de célébration, de chant, de louange, de prière. Merci pour ces textes bibliques qui nous ont été rappelés, cet encouragement. Merci pour la réalité de la famille de Dieu. Oh, ce n'est pas toujours facile, évident, ni simple, mais nous considérons que nous sommes en apprentissage et qu'au quotidien, tu nous accompagnes pour faire des progrès et pour pouvoir nous aimer de mieux en mieux et de plus en plus. Bénis chacun, chacune d'entre nous. Ceux qui écoutent en ce moment, ceux qui vont écouter en différé, merci de nous accompagner, de nous garder. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.